podcast.com. Essaye ça.
Je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me souhaites la bienvenue à Terrain Basique, tout le monde. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content d'être ici pour encore une fois animer le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering, la machine à café, la rage dans la cage et toutes ces affaires-là. Je fais pas ça tout seul cette semaine, hein, un petit peu comme d'habitude. On a non seulement une trame sonore de fond, qui a été choisi par Emmanuel Côté Séguin. Salut.
Choisi, c'est vite dit. J'ai dit un mot, puis ça fait oh, OK.
Ben comment c'est deux mots. Choisir quelque chose autrement que ça.
C'est vrai. Ton mot est loin, Manu.
Fait que t'as choisi quoi?
Icewind Dale.
Mm-hmm. Pourquoi?
Je crois. C'est bien ça.
Oui.
C'est ça. Ben, parce qu'on parlait de musique de thématique, puis c'est le on premier qui m'est venu en tête, puis on a déjà fait Baldur's Gate. Puis
OK. C'est quoi ça, Icewind Dale? On va-tu en parler en deuxième partie d'émission avec Mathieu Gassien?
C'est pas, connais-tu ça, Mathieu?
Icewind Dale, c'est comme après Baldur's Gate, mais c'était beaucoup plus concentré sur le combat, puis moins sur le RP que Baldur's Gate, fait qu'il y a beaucoup qui le considèrent comme étant inférieur. Salut!
Ah. Ah, voilà.
Salut Mathieu!
Et salut Mathieu! Mathieu, voyons Mathieu.
Mathieu Gassier.
Ouais, c'est ça. J'étais pour dire DM extraordinaire, maître du jeu. Et voilà, on va pouvoir parler un petit peu plus en profondeur et pour nous accompagner cette semaine. Il n'y a pas Jason, on le salue dans sa retraite de papa, mais il y a Andy qui prend le relais.
C'est presque pareil. Avec un petit peu moins de larmes, mais un petit peu plus de joie.
Ouais, il va pas juste name dropper tous les épisodes de qu'est-ce qu'on a parlé.
Ben, je peux faire comme lui. Il y a
au hasard.
Vérifie, là.
Ouais,
c'est comme à l'épisode 63, vous allez voir.
Ah, c'est vrai, je m'en rappelle.
Oh, fait que là, on va commencer en fait en début d'émission, comme ça, on va pouvoir parler un peu du draft que Louis, un des fans de l'émission qu'on salue bien bas, a comme insisté, a proposé. Je veux pas dire qu'il y a quelques processus ou étapes dans le processus qui ont été désagréables, mais il s'est arrangé pour venir jouer ici au musée. On a fait un draft avec les amis en respectant les consignes sanitaires et tout. On s'est ramassé donc à être 6 personnes à participer à la chose. 3 matchs de 2-3, un draft avec 3 boosters de Modern Horizon 2. Capoté.
Yes. Ouais, c'était vraiment cool comme draft. Je sais pas comment t'as trouvé ton expérience, Tommy. Là. Mm. Ouais, Modern Horizon, on en a parlé pas mal de shows. Puis la seule occasion que j'ai eu de jouer, vu que je joue pas vraiment sur MTGO, ben ça a été le pre-release sealed que j'avais fait. Puis c'était pas mal ça. Fait que c'était vraiment le premier end-zone avec Modern Horizon, je pense pour toi aussi, Tommy.
Oui, moi c'est la première fois que je fais ça. Même les boosters, le reste, on a pu en acheter plein on the side. Ça a été très plaisant. Ça m'a coûté 70$ de cartes, mais au final, je n'ai pas pogné la meilleure carte dans. En fait, on va parler du draft avant de parler des cartes que j'ai pognées on the side.
On
là, mais
parle de ce que tu veux, Tommy.
Voilà. Premier booster de mon draft, la rare, c'était le Yggdrasil machin, là.
Yavimada Cradle of Life.
C'est ça qui fait que toutes les landes sont des forêts aussi.
Là, Cradle of Growth, pardon.
Voilà. Je me suis dit, j'ai pas ben le choix de partir avec ça. Écoute, non seulement au niveau monétaire, mais aussi, c'est sûr que c'est une carte qui était pour finir dans un de mes decks à quelque part. Donc, voilà, après, je me suis senti un petit peu menotté, surtout qu'on sait que moi et les elfes, ça fait que je me suis dit que ça doit être l'eau des elfes dans le verre, cette set-là, c'est comme de rien. Et voilà, je me suis comme un petit peu peinturé dans le coin. J'ai été obligé ensuite d'aller dans le verre et de piger des elfes. Et c'est ça, ça.
C'était compromis, finalement.
Oui, c'est exactement le bon mot. Là, on voit en haut, là, il y a le Elven Ranger là, en haut à droite. Là. Un noir, un vert, 3 colorless pour un monstre 2-2 qui arrive en jeu avec 2 écureuils. Il y a 1-1 et tu payes 3 colorless, 1 noir pour donner plus 1, plus 0 et menace à toutes tes écureuils. Donc, oui, vous êtes en train
le,
de...
Le keeper, oui, t'en avais 2 de ça.
Oui, 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 j'en avais 2 comme ça. Et donc, par la force des choses, je me suis ramassé avec pas mal un deck d'écureuils, là. Et voilà, là, au début, je
malgré
me suis...
toi.
Ouais, vraiment, ben... En même temps, j'ai été plus content d'appeler ça un deck d'écureuil qu'un deck
d'elfes. Un deck d'elfes. N'importe quand. Marie, j'en vois partout, là, des elfes.
Ouais, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en avait trop. Tu sais, si tu vois en bas à droite.
Il y en a au moins 4 faciles là, que je
peux. Ouais, c'est ça. Ben, au moins, il y en avait 2 qui avaient du noir dedans. Fait que c'est comme des elfes traîtres à leur famille. Ça, j'aime ça. Sinon, ben, il y a 2 Deepwood de Denizen. Ils ne sont pas rejoints sur la photo. Si vous voulez voir le visuel, ça se fait.
Là, on voit ton pied, hein, c'est ça?
Non, le oui, pied avec du. Je pense que c'est Dahlia, ça. Avec,
sûrement Dahlia. C'était pas les miens, en tout cas.
J'ai été très content. Toutes les fois, j'ai sorti le Archfiend of Sorrow. C'est 2 noirs, 5 colorless. Quand il arrive en jeu, ça donne -2/-2 à toutes les créatures de l'adversaire. Sinon, il est unearthed pour 3 colorless, 2 noirs. Ça veut dire que s'il est dans ton graveyard, tu payes ça, tu le ramènes en jeu, il est ace jusqu'à la fin du tour. Puis à la fin du tour, il faut que tu l'exiles. Donc c'est ça, ça a été
Tu me l'as joué 2 fois d'en face puis à chaque fois ça a wipé mon board.
Oui, mais c'est parce que tu sais. Et là, si vous voyez aussi, il y a le Sorcery qui coûte un colorless, un vert qui fait apparaître un Squirrel, mais qui est Storm. Fait que j'ai essayé de mettre des spells qui coûtent pas trop cher. Mais ça n'a pas marché, fuck all. Donc,
Storm, c'est quand même tough à faire activer en draft. Là,
effectivement, le Storm, ça fait un peu moins.
Mais tu sais, quand même, si tu fais juste un autre spell, tu casses ça, tu te fais 2-1-1 Squirrel avec ton support de Squirrel, c'était quand même. Ça valait la peine. Là,
oui, ça m'est déjà arrivé d'en avoir 6 en jeu des écureuils. J'avais le lieu
t'avais de l'écureuil
aussi. Oui, c'est ça. C'est, ouais. Il donne +1/+1 à toutes les écureuils. J'aime beaucoup le concept d'un deck d'écureuils. Je dis pas que j'en ferai pas un dans le futur. Là. Je me suis gardé ces cartes-là de côté. J'aime ça que le jeu revienne un peu là-dessus. Puis aussi que ça splash noir parce que. Tu sais, des decks verts monocouleurs, ça me rejoint pas vraiment, mais des decks noir-vert, là, on jase plus. Le noir, c'est ma couleur préférée overall, puis je trouve que ça se splash vraiment super bien partout. Et j'ai été très content aussi de pogner le Underworld Cookbook. Oui. Ça a été très pratique.
Il était plus utile dans la première version de ton deck, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on s'est affronté, la première partie de la soirée, c'était tout contre moi. Mm-hmm. C'était pas ce deck-là pantoute que t'as joué.
Mm. Il était moins écureuil. Toutes les cartes écureuil n'étaient pas là. Tu jouais du rouge.
J'étais allé plus Madness, hein, c'est ça?
Ouais, un mélange Madness puis modulaire, voilà.
Parce que Madness, c'est super bon, le cookbook pour activer ton Madness parce que tu discartes avec. Là. Mm-hmm. Ça te fait une façon de discarter. Là. Mais je pense que cette version-là était définitivement meilleure.
Ben, 3 couleurs, c'était rough. Là. Ouais. Et, même si toutes mes cartes rouges coûtaient juste 1 rouge. Là. Mais le but aussi, c'était parce que tu vois, le Deepwood Denizen qui coûte 2 colorless, un vert, qui est un Calice d'Elf, 3-2 Vigilance. Après ça, tu payes 5 colorless, un vert, tu le tapes, puis tu piges une carte, mais l'habilité coûte 1 colorless de moins pour chaque compteur, +1/+1. Et là, j'en avais 2 dans mon deck. Je me suis dit, avec les bébites modulaires qui arrivent en jeu des fois avec 4 compteurs +1/+1, 2, 3, c'était pour un moment donné comme devenir de la valeur avec le temps. J'avais une couple de cartes pour me faire des food tokens, pour me redonner de l'énergie au cas que je déborde. Je dirais que la carte qui m'a le plus impressionné, c'est le Terramorph. Tu payes 3 colorless, 1 vert. Et c'est un spell rebound, ça veut dire que tu peux le faire gratuitement et t'exiles le sorcery au début de ton prochain upkeep après l'avoir casté. Et tu vas chercher un basic land, tu le manges pas tapé. Fait que c'est quand même assez pas mal cool, ça.
C'est gros fixing.
Oui, vraiment. Puis tu sais, quand il coûte 4 la première fois, tu peux aller chercher comme le rouge qui te manquait pour faire tes affaires. Tu sais, ton tour, il est pas perdu pantoute quand tu peux aller chercher le basic land que tu veux en taper pour voilà.
Et parce qu'au bout du compte, il te coûte 3, tu sais, parce qu'il arrive en jeu pas tapé. Hein,
exactement.
C'est comme toutes les nouvelles cartes qui arrivent puis qui créent un trésor, là, tu sais.
Ouais. mais il y en a pas mal de ça, effectivement. Dans Forgotten Realms, le DM est généreux.
Ouais.
On l'a dit une couple de fois la semaine passée. Mais sinon, la carte, je dirais, qui m'a comme impressionné, puis que je vais sûrement me rappeler, entre guillemets, c'est le Fae Offering, F-A-E Offering, deux colorless, un vert. Là, en limité, c'est tel que tel, là, mais au début de chaque end step, si tu as casté une créature et un non-creature ce tour-ci, tu peux créer trois tokens, c'est-à-dire un food, un treasure puis un clou token. Ah, fait que trois artefacts en jeu pour avoir fait deux spells, puis des artefacts pas inutiles. Là, tu peux après ça piger, gagner de l'énergie, tu peux aussi avoir du mana. Donc, je trouvais que
c'est une carte
versatile.
Le clou token, c'est tu payes deux, tu le tapes pour le, puis tu le sacrifies pour piger une carte.
Ça vient de Innistrad quand il menait l'enquête pour essayer de
trouver. L'habilité Investigate. Quand tu investigates, tu crées un clou token.
Voilà.
Fait que c'est l'ancien nom de Scry, dans le fond.
Ben non, pas en tout.
Non, tu crées vraiment un artefact on the side.
Tu crées
un
artefact
token.
Ah ouais. Que tu payes deux colorless n'importe quand pour le sacrifier et piger une carte. Donc, ça ressemblait pas mal à ça. Là. J'ai ben aimé, là, on voit pas le nom. Oh, attention, attention.
Oh.
Attention, là, tu peux voir.
Ah, attends.
Graveyard! Ah, ça en était un beau aujourd'hui.
C'était senti, ça venait.
Crampo!
Toi, tu joues à Donjon ces temps-ci, Chino?
Ouais.
C'est quoi ton personnage?
Il y a un Tiefling.
Excellent. Merci beaucoup, Chino. On va faire un
top de terrain basique. On va faire ça. Tommy, je pense que tu as enlevé ton micro. Hein.
Ouais, on t'entend plus.
Moi,
ouais. C'est Chinook qui a tout brisé, je pense.
Ouais, c'est...
avec son trample.
Là, vous m'entendez pas.
Non.
À chaque fois que je reviens sur le podcast, je me rappelle pas à quel point c'est chaotique.
Ouais. Fait que tout ça pour dire, ça c'était le deck à Tommy, mais Tommy, il a pas gagné, par exemple, pendant qu'il est muté. On va en profiter pour parler dans son dos. C'est la personne qui a gagné le draft, c'est moi.
Bon.
C'est moi qui a gagné. Je l'ai ici. Mon deck, écoute, mon draft c'est passé, c'était un petit peu weird tout le long. Mais ça a fini par bien aller. Mon premier pick, c'était le Sanctum Weaver, un colorless, un vert pour un enchantment creature que tu peux taper, puis ça donne X. Mana de la couleur de ton choix, puis X, c'est le nombre de enchantments que tu contrôles. Donc, à la base, elle-même te donne un mana de n'importe quelle couleur. Fait que c'est un mana dark pour deux. C'est super intéressant. Puis, quand je me suis dit, je vais prendre ça en premier, après ça, le monde est mon huître. Là, tu sais, comme un océan de possibilités. Je peux y aller avec toutes sortes de couleurs. Puis, je savais qu'il y avait comme un archétype un peu différent dans Modern Horizon de drafter des cartes avec Converge qui ont des bonus selon la quantité de mana de couleurs différentes que tu tapes pour caster les spells. Et j'ai été reward dès mon deuxième pick. J'ai pogné un Glinton Creeper qui est une carte avec Daunt, donc elle ne peut pas être bloquée par des créatures avec le power de 2 ou moins. Puis elle coûte 5. Ah, il est de retour. Elle coûte 5, puis elle rentre en jeu avec 2 counters +1/+1 pour chaque couleur différente que tu as payé son mana cost de 5. Donc ça peut être un 10-10 au plus. Puis, c'est arrivé, écoute, là, je ne l'ai jamais casté en bas d'une 6-6. Puis, c'était très, très, très souvent une 8-8 ou une 10-10. Puis, j'ai fini par en ramasser deux de ça. C'était mes grosses bébites là, que je finissais les games avec. Là, ça a très bien été. Puis, après ça, ben, j'ai commencé à comme prospecter pour voir vers quelle autre couleur que j'allais aller. Puis, il y avait du bleu. Le vert était super ouvert. Fait que je me suis ramassé à être super dans le vert. J'ai aussi pogné un Yavimaya,
mais...
Cradle of Growth.
Old Border, mon cochon.
On a pogné trois, je pense.
Non, c'était juste deux, mais moi, je l'avais pogné rétro. Fait qu'il vaut plus cher. Et c'est mon deuxième, en fait, parce que je l'avais aussi pogné dans mon pre-release.
Explique-nous donc encore qu'est-ce que ça faisait.
Ça rend toutes les lands en jeu, toutes les lands de tes adversaires, de toi, ça devient des forests en plus de leur type de base. Fait que ça fait que toutes tes lands produisent du vert.
Okay.
Quand je l'ai ramassé paquet 2, j'étais pas sûr à quel point j'allais être vraiment beaucoup vert. Fait que ça m'a, je me suis dit que ça allait m'aider à comme caster justement mes realm creatures puis mon fixing, parce que j'avais aussi deux Rift Sower qui sont des elfes qui ont suspend deux qui pour un vert, ou sinon tu peux les caster pour trois puis ils tapent pour la mana de la couleur de ton choix.
Fait il y avait du Landwalker dans Modern Horizon 2?
Pas beaucoup. Je l'ai checké, puis Forest Wall, je pense qu'il y avait une carte, puis c'était dans les flashbacks de Modern Horizon 1 en Old Border. Là, fait que c'était quand même assez rare. Là, il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Okay. Il y a du Island Walk, j'avais pogné la créature. C'était un Merfolk là, qui avait Island Walk. Là, mais il y avait quelque chose. En fait, d'ailleurs, j'ai commencé aussi rapidement à pogner toutes les Dual Lands. Parce qu'il y a un cycle de land, les bridges qu'ils appellent, qui sont des artifact land, qui sont dans toutes les paires de couleurs à commun. J'ai commencé assez rapidement là, à juste toutes les ramasser. Dès qu'il y avait un paquet que je voyais rien qui m'intéressait vraiment, je prenais le land. Je me suis ramassé, là on le voit sur l'image ici, j'en avais six. Il y en a deux que je jouais pas, qui étaient juste complètement off-color. Mais toutes elles, ils produisaient au moins du vert ou du bleu, parce que c'était ma base. Puis ça a vraiment été payant. Puis avec ça, j'ai comme 8 drafté à la fin un Ventus Glove, si ma mémoire, Ventus Glove, qui est un équipement qui donne Artifact Land Walk à Target Creature. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit impossible que je laisse ça à quelqu'un pour qu'il me le joue d'en face parce que ça pète complètement mon deck. Fait que je l'ai juste gardé puis je l'ai mis de côté.
Wow.
Mais sinon, écoute, il y avait des petites créatures. Jade Avenger, tu l'as bien aimé aussi, toi, Tommy. Je pense la grenouille 2-2
ouais,
avec Bushido
2.
C'était comme un threat. C'est un threat difficile à gérer parce qu'à chaque fois que tu essaies de la bloquer, ça devient une 4-4. Ou quand tu la bloques, ça devient une 4-4. Là, ça a été assez efficace.
Très, très, très pratique. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que, surtout dans du limité Modern Horizon comme ça, il n'y avait pas tant de 5 de toughness. Même mes gros monstres qui coûtaient genre 6, 5, tu sais, il n'y avait pas de toughness pour arrêter ça. Fait que ta grenouille 2-2, fallait que je la laisse passer ou que je la tue avec mon démon qui pouvait donner -2/-2. Là.
Ouais.
Ouais, c'était une bonne job, ça.
Puis tu sais, je me suis ramassé quand même avec du bon removal. C'était beaucoup avec des enchantments. J'avais Capture by the Lagax, qui est un pacify qui enlève les habiletés puis qui empêche d'attaquer puis de bloquer. Mais en plus, tu mets un 2/+1/+1 counter sur une de tes créatures pour 3, dont un blanc, un bleu, c'était quand même, un blanc, un vert, c'est quand même assez musclé. Puis j'avais des sauts shiny aussi, que si j'avais un token en jeu, tu tapes la créature puis tu scryder. Sinon, c'est juste que en tout temps, c'est la créature, ça ne tape pas. Là, c'est un classique removal de bleu. Puis j'avais le Kaleido Scorch, qui était un payoff pour jouer Converge, pour jouer plusieurs mana dans le fond. C'est un colorless, un rouge, puis ça fait X dommages, qui est le nombre de couleur que tu as tapé pour le jouer, fait que c'est maximum 2, mais il y a un flashback de 4 colorless, un rouge, fait que tu peux le recaster pour peut-être 5 de dégâts, puis c'est sur n'importe quel target, fait que c'était quand même intéressant.
C'est le fun parce que early game, tu l'utilises comme un choc, puis après ça, tu l'utilises comme une...
pas une lava-axe, mais comme un... Ben oui, c'est 5/5, là, c'est...
Face.
C'était un lava axe, là. Ouais. fait que ouais, c'était cool. C'était un deck que j'étais pas super confortable au début de le drafter. J'étais pas sûr. Finalement, ça a super bien performé. Puis les cartes sont arrivées comme faux parce que je me suis ramassé par hasard les deux rares simiques qui allaient là, dont le Lonis cryptozoologiste que j'ai comme pogné à ma... Je pense que je l'ai pigé à ma 6e game. J'avais complètement oublié que je l'avais dans mon deck parce que je l'avais pas vu du tout avant. Pour un vert, un bleu, elle fait que à chaque fois qu'il y a une créature qui rentre sur le battlefield, sous ton contrôle, tu fais un clue token. Ce qui est déjà super intéressant.
Oui, c'est pratique.
Puis tu peux le taper, sacrifier X clues. Puis tu révèles les X premières cartes de la library de ton adversaire. Puis tu peux caster un spell qui a un mana value de X et moins.
Wow.
C'est quoi le révéler, excuse,
c'est non, mais c'est dans le fond, je sacrifie. Disons, j'avais quatre clous. Là, j'ai casté quatre créatures avant. À chaque fois qu'il y en a une qui rentre en jeu, je crée un clou. Je le tape, je sacrifie quatre clous tokens.
Voilà.
J'enlève les quatre premières cartes de son library, puis je peux caster un spell avec quatre mana value ou moins pour gratuit.
Parce que t'avais révélé un clou, puis là, je me demandais ce qui se passait, mais là, je te suis. Le set, quand même, les cartes sont assez chargées. Il y a beaucoup de textes. La synergie, la synergie est cachée dans les détails un petit peu, là, mais c'est vrai que c'était le fun à drafter.
Je n'en ai certainement fait un autre.
C'est parce que c'est un set qui a été fait pour aller straight to modern. Puis ils se sont pas bandrés parce que vu que c'est pas vraiment un nouveau set qui arrive dans Magic, ils se limitent pas comme à quatre mécaniques, mettons. T'sais, ils vont là all-in. Ah, ça nous tente-tu de ramener une carte avec Storm, let's go. Ça nous tente-tu de ramener une carte avec Cascade. J'avais une créature qui avait Cascade pour 3.
Bushido,
Madness, Converge, all-in. C'est all over the place, mais c'est quand même un set qui a été conçu avec le draft en tête. Fait qu'il y avait quand même des archétypes, puis il y avait quand même des synergies possibles à travers tout ça. Fait que oui, je pense à une certaine complexité, mais c'est fait pour drafter. Fait que c'était le fun, là.
Et voilà. Puis là, il y a Mathieu qui veut parler, là, qui est en train de lever la main, puis tout comme quelqu'un d'éduqué.
Ben, je voulais pas t'interrompre, Eman, c'est tellement intéressant quand tu parles. Je voulais juste dire, avez-vous entendu parler de ce que ça a fait dans Modern en général? Je sais que les élémentales Evoke ont été très convoités. Ouais. Est-ce que ça a changé le metagame, tu sais?
Nos experts modernes ne sont pas ici ce soir. Okay, mais on a fait quelques épisodes sur le set avant sa sortie et après sa sortie. Là, vous pourrez aller voir Modern Electric Boogaloo.
Épisode 136.
Genre, là.
C'est bon.
Dans ces eaux-là, il parle justement de l'impact des cartes sur le Modern et sur le format. Ça serait intéressant de lui reparler avec parce que ça venait de sortir. Fait que, puis il avait juste joué sur MTGO. Là. Je serais curieux de voir un mot.
Que va-t-il se passer avec tout ça? Hein? Demandons-nous de manière pertinente. Voilà, je pense que ça peut nous amener à la fin de ce premier bloc. Ah, quoique, je peux mentionner que dans mes boosters que j'ai achetés, j'ai poigné la Sword of Art and Machine, là, 3 colorless, 2 colorless à équiper. Après ça, c'est +2/+2, protection from white and from green. Puis à toutes les fois que tu fais du dommage à un joueur, tu peux blinker une créature que tu ramènes en jeu untappé et aller chercher un basic land ou fighter une créature, j'ai oublié.
Non. Tu vas chercher une basic land.
Oh, check l'autre, il est au courant.
Hey, non, mais c'est parce que c'est la meilleure sword depuis Feast and Famine, là, qui te permettait de taper toutes tes lands puis que la personne a 10 cartes. Là.
Ouais, ça, c'était basic land. J'aimais bien la. Ah, ben voilà. J'aimais bien la Fire and Ice, moi, celle que.
Ouais. Celle de George R. Martin.
Ouais, c'est ça, celle de George R. Martin. Puis j'avais raison, là.
Dans Modern 1, j'avais pogné l'autre sword, là, la plus poche, là, celle qui proliferate puis qui met un +1/+1. Là.
Ouais, je vois un peu plus son nom. Tout le monde
est elle est vraiment slow. Là.
Puis effectivement, tu avais raison, 136,
c'est Modern. C'est ça, je suis super content. Je suis fier de moi. Je suis comme...
C'est notre Jason de secours. Hein.
Jason Junior.
Jason a senti la force vibrer jusqu'à Gatineau.
Voilà. Ça nous amène donc à la carte de la semaine. Merci beaucoup. Pour ce début d'émission, les amis, on va s'en aller là-dessus. On va écouter le beat à bon et prendre le temps de remercier nos amis à l'Abyss. N'oubliez pas, vous avez un code promo TB2021 qui vous donne 10% de rabais sur tous les produits scellés. Vous pouvez aller les voir. Sinon, 4497 Jean Talon Est, métro Saint-Michel ou au www.labyss.com. Là-dessus, on écoute le beat à bon.
« Moi, je tiens qu'à dire que je me suis servi du code pour le pre-release de Adventure Firelight Tunnel Realms. Dans deux semaines, on draft ensemble.
Ouais.
Puis le code marche super bien.
Oh, ben ah, voilà. Ah, c'est toi qui as acheté la boîte pour ça? OK, grand garçon. Donc, ben voilà la carte de la semaine. Qui c'est qui gère ce dossier-là?
Ben c'est, ça va être Mathieu qui nous a choisi la carte.
Il frétillait sur son siège. Tout, là. Vas-y, Mathieu.
J'ai entendu dire que c'est un gros fan.
OK. La carte de la semaine, c'est une ville en Russie. C'est Minsk Beloved Ranger. C'est une Naya, donc rouge, vert, blanc, pour une 3-3 Human Ranger. Donc Minsk, en plus d'être un personnage legacy, là, on dirait, là, du monde de Forgotten Realm. C'est aussi un dude qui arrive en jeu. Il crée Boo, qui est son hamster miniature géant de l'espace, qui est une Legendary 1-1 rouge token. Là, il m'a enlevé la carte là, de la face. Là. avec Trample et Haste. Donc, il crée une 1-1 légendaire rouge avec, avec Trample puis Haste. Puis tu peux payer X.
Pour rassemblement.
Pardon?
Vas-y.
Tu peux payer X pour, jusqu'à la fin du tour, rendre une de tes créatures une XX et ça devient Flavor, un giant en addition à tous ces autres types. C'est comme...
Évidemment, tu le fais sur ton hamster.
Tu le fais sur Boo, tu le fais sur...
Puis ça se fait en sorcery, c'est important. Là. Tu peux pas faire ça
oui,
en instant. Là.
Tu peux juste faire ça en sorcery. Tu peux aussi faire ça sur une 1-1 qui a Infect, si tu veux. quelqu'un. Mais ça serait pas Minsk qui ferait pas ça.
Non, c'est un gentil ranger.
C'est un gentil, il y a une coupe de cheveux de vraiment pas clean. Ça rentre pas chez nous, ça.
Ben, si je ne me trompe pas, il est fou. Il est fou, mais il est gentil, mais il est craqué un peu.
Simple d'esprit.
Ben, il y en a qui disent qu'il est fou, il y en a qui disent qu'il a raison, puis personne ne le croit. Là, c'est aussi ça l'affaire. Là.
C'est ça, parce que c'était un personnage de Baldur's Gate classique. Là.
Puis avec les règles de deuxième édition, Baldur's Gate, là, fait que lui, il avait 18/99 de force. Fait que quand il critait, là, il critait en tabarnak.
Hey, ça fait que vous êtes en train de me dire, vous qui connaissez le personnage depuis très longtemps, que c'est une transition qui a bien, bien de l'allure vers Magic.
Oh oui.
Ouais, la carte est juste assez jouable, mais pas assez forte. Ouais, pour genre les gens qui vont l'acheter pour le bonhomme puis pour faire ah gars je joue Minsk puis je vais aller acheter le token de Boo
puis j'ai un hamster il y a combien d'hamsters dans Magic the Gathering
mon token c'est mon vrai hamster que j'ai chez nous que je mets sur la table.
Et hey, il a le token de Boo.
C'est le art est tellement drôle là qu'il pitch là comme un meme là.
C'est pas pire aussi ce qui est bon.
Oh Boo!
Au niveau Magic
le flavor text c'est Go for the eyes Boo.
C'est un voice line de Baldur's Gate.
Que Boo soit Haste puis Trample c'est quand même pas mal cool. Là. C'est mieux qu'il soit Haste et Trample qu'il soit mettons 4-4 à la rigueur. Là. C'est quand même une carte assez intéressante. Autant au début qu'en fin de game. Bon, je pense qu'on peut dire merci à Mathieu et à tous les amis pour la carte de la semaine et s'en aller vers le dernier bloc. Mais pas tout de suite. Avant, on va écouter le beat à bout. Mathieu, le cerveau est en train de fondre. Fait que de quoi qu'on jase, là, on va jaser de Forgotten Realm. C'est grand, hein? C'est canadien aussi, oui. On m'a dit.
Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu Forgotten Realms arriver dans Magic? Parce que t'es un joueur de Magic, tu nous as déjà présenté tes decks de Commander, puis Donjon, ça fait pas mal partie de ta vie. T'as un podcast de Donjon Dragon, hein, Roche-Papier-Dragon. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand ces deux univers se sont réunis de façon aussi intrinsèque, aussi intriquée?
Ça fait à peu près 17 ans que je joue à Donjons et Dragons. Puis j'ai pas joué une game plus que. C'est pas vrai. J'ai joué une game de Adventures League. Mais à part de ça, j'ai jamais joué dans l'univers de Forgotten Realms.
OK.
Forgotten Realms, c'est l'univers le plus générique puis le moins inspiré de fantasy que j'ai vu de ma vie. Cela étant dit,
as-tu connu Greyhawk? Parce que c'est encore mal plus
Greyhawk, c'était juste, c'est désert, une affaire importante. Ouais. Désert, une affaire importante.
Dragonlance, que les dragons, ils sont, écoute.
Non, mais t'as peur Dragonlance, là. Tout un monde building avec trois lunes, avec la magie qui joue, puis wow.
L'affaire. On peut s'ostiner qu'il y a plein de monde plus générique que Forgotten Realms. Ça rend pas Forgotten Realms
moins générique.
L'affaire, c'est que c'est pas mauvais, OK? Il y a Cholt, il y a une station spatiale sur la Lune, des elfes, whatever. Il y a plein d'affaires, OK? Puis ils n'arrêtent pas à chaque édition, ils n'arrêtent pas de retcon le lore puis de rajouter des affaires puis de changer des trucs. Pis c'est vraiment correct. C'est juste que quand tu joues à D&D, c'est mille fois plus cool d'aller dans un monde que le DM crée. Puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de créer un monde, fait qu'ils vont dans Forgotten Realms, mais ils transforment Forgotten Realms pour que ça devienne leur monde. Fait que ma première réaction quand j'ai su ça, j'étais comme « Ah, OK, j'achèterai pas une carte de Forgotten Realms, je pense. » Mais cela étant dit, ça fait que des nerds de D&D m'ont texté et m'ont dit « Hey, on se fait-tu une soirée de Magic? » Puis je suis comme « Tu joues pas à Magic? » Puis ils sont comme « Ouais, mais j'ai vu les cartes puis ça me tente de jouer Xanathar. » Puis je suis comme « Bon, ben, OK. » Genre, leur coup de marketing a vraiment bien marché.
Ouais.
Puis comme on en parlait avant le show, genre, je suis mad parce que je le sais qu'ils essayent très clairement d'aller chercher des gens comme moi. Mais ça marche, c'est bien fait. Genre, ils ont bien fait leur shot, puis c'est pas cheap comme Walking Dead. C'est genre, ça a du sens ensemble. C'est juste que Forgotten Realms, c'est le plan dans le multivers de Magic qui est le moins intéressant pour moi.
Ben, je pense que c'est une bonne porte d'entrée peut-être justement pour ça, parce que même ceux qui n'ont jamais entendu ni du cul ni de la tête parler de Dritz d'Oerden seront pas complètement dépaysés. C'est que c'est ça, ce monde-là. Il y a quand même des référents qui fit avec, tu sais, pour les joueurs de Magic.
Et tu sais, je veux dire, le set est fait clairement pour les trentenaires, là, ceux qui ont lu des livres de Donjons et Dragons.
On va s'en
et, tu sais, je veux dire, à part la série de Dragonlance qui était, je pense, la plus populaire, la série de tous les livres de Forgotten Realms, il y avait beaucoup de référents que tu peux aller chercher dedans aussi. Les jeux vidéo, la plupart des jeux vidéo étaient faits dans le monde de Forgotten Realms. Fait que c'était normal que c'était par là qu'elle allait commencer s'ils voulaient commencer à quelque part.
Puis ils ont vraiment bien fait ça parce que non seulement à chaque fois que quelqu'un va sortir Drizzt, puis qu'il y a quelqu'un qui va dire « c'est qui ça? » Il y a trois nerds à table qui vont faire « Drizzt, c'est...
» Ben, on le fait nous-mêmes. Là.
Mais deuxièmement...
Un personnage super original parce que son maître, c'est un aveugle qui voyait mieux que les gens avec des yeux. Fait que ça lui a permis d'apprendre comment lancer ses hosties, ma tête tout le temps à bonne place. Puis là, il y a sa panthère aussi, parce que moi, ce que j'ai lu toutes les trois premières trilogies de Forgotten Realms, puis dans chacune, il trouve le moyen d'impliquer une panthère noire à quelque part.
Oui, Gwyn Weaver, c'est pas n'importe quel panthère, c'est l'aspect des panthères.
Puis le dieu de la mort dans la série des
avatars. Dans le premier, c'est un gars qui est panthère garou.
Oui, exact, c'est ça.
Là, après ça, dans le troisième, il y a une statue, puis il peut pitcher ça sur le monde, ça devient une panthère. Il y en a d'autres, des animaux dangereux, là.
C'est un fétichiste de panthères.
C'est tellement cool, des panthères, bro.
Mais saviez-vous que c'est juste des léopards avec des problèmes de peau?
Okay. on aime ça de la mélatonine, OK? Fait que ce que je voulais dire, là, c'est que oui, il y a des vieux bonhommes comme Drizzt puis Buernor puis toute cette, la gang là, que d'ailleurs tu rencontres dans Baldur's Gate 2 un moment donné, c'est un random encounter. Ouais. Deuxièmement, ils ont mis des nouveaux...
J'ai envie d'avoir un flash.
Des nouveaux personnages. C'est vrai. Qui n'ont pas rapport. Il y a un gars qui s'appelle Ranger of Silvery Moon pour pas avoir le copyright de Blizzard. Ça, c'est très drôle.
mais ils ont mis plein de nouveaux personnages qui n'existent pas encore dans D&D. Mais
toute la série des personnages qu'on voit sur les cartes, you come upon a river, ouais. You are something on the watch, c'est quoi, c'est Nador, Ajmaj, Pabage, ouais. La Mage.
Eliwig, je t'allais checker, Eliwig, comme un personnage à quelque part, mais c'est pas. Ouais. C'est même pas. J'avais dit c'est un personnage dans un jeu mobile, genre. Fait que, c'est le Idol.
Dans le Idol, Forgotten
Realms. Mais là, peut-être aussi qu'il y a, mettons, le fait qu'elle s'est rendue un Planeswalker, peut-être c'est du spoiler pour les fans de Forgotten Realms qui vont apprendre via Magic dans cette affaire-là.
En fait, si je peux embarquer là-dessus, c'est que les Planeswalkers qu'ils ont mis là-dedans sont... Tout le set n'est pas canon, by the way, dans l'univers de Magic. Forgotten Realms ne fait pas partie du multiverse.
Il n'y a aucun des Planeswalkers.
Les Planeswalkers, ils ont fait pour que ça soit le fun mécaniquement puis qu'il y ait un Planeswalker, mais c'est juste des gens qui sont capables de voyager entre les plans de Forgotten Realms. Fait qu'il y a Mordenkainen, il y a Lolth, il y a Bahamut. Puis
Zariel.
Zariel. Puis c'est qui?
Puis Eliwig.
Eliwig, c'est ça. Puis Eliwig, pourquoi elle est capable de voyager? C'est qu'elle a le Deck of Many Things, puis elle a sorti la carte qui lui a donné un wish. Puis elle a le wish de pouvoir voyager partout. Fait que c'est une Planeswalker, tu sais. Puis c'est un des seuls personnages qui marcherait, je pense, dans le reste de Magic. Ouais. Puis je pense que je serais pas fâché de la voir apparaître ailleurs, ne serait-ce que parce que ça manque de barde dans D&D. Ça manquait de cuisinier il y a pas longtemps. Puis là, on en a
avec
eu.
Avec Asurano Mardi, Kadai, Sinacule, d'accord.
Tabarnak! Puis Guillaume.
On le paye.
Je suis pratiqué.
Il y a eu un deuxième aubergiste, sûrement, qui est capable de cuisiner. Aussi.
Ben oui,
avec un autre qui s'appelle Pau.
C'est Prosper l'aubergiste après avoir Eddie. Oui, parce que c'est Edgewall Innkeeper puis le Prosperous Innkeeper. Ça s'en vient la tribe la plus puissante de Magic, là, tranquillement, pas vite, les Innkeepers.
Par carte, en tout cas, ouais. Mais au prorata. Mais c'est ça, fait que les Planeswalkers, c'est pas des vrais Planeswalkers, mais en même temps, ce sont plus des Planeswalkers, puis, tu sais, c'est ça.
Puis penses-tu que les bases communicants se fait dans l'autre sens aussi, qu'il y a des joueurs de Magic qui vont être tentés d'aller jouer à Dungeon en jouant avec le set?
Clairement, clairement.
Penses-tu, ouais?
Parce que D&D, c'est un brand qui est très qui est driven par des personnages, des gens comme Critical Role, mettons, que les joueurs sont célèbres, mais leurs personnages sont célèbres. Fait que les gens sont attirés par des concepts de personnages cool, puis quand ils n'ont jamais joué, ils copient ce personnage-là. T'sais. Ton premier personnage de D&D, c'est juste une copie.
Je vais faire un Dritz, mais à la place d'être des cimetières, il y a deux dagues.
Il s'appelle Britz.
Ouais. C'est vraiment correct, by the way, là, de jouer Dritz dans ta première game de D&D. C'est juste que tout le monde l'a fait. Oui. C'est comme ça que t'arrives. Fait que si là, tu traites Magic...
C'est un elf, fuck that. J'ai jamais touché à ça.
Mais t'as fait Dritz, mais c'était un
demi-dieu. Son maître, là, c'est un aveugle qui voit mieux que les gens.
T'as fait Bruenor, là. Il s'appelait Truenor.
Non, mais excuse, mais je me rappelle, toi pis moi, on jouait à Dungeon avec les cartes dans le temps. On était au chef de grand-père.
Spellfire.
Tant que tu jouais un nain.
Andy, il a les reçus.
Ben, un nain, tu sais quoi la différence entre un nain et un elfe, Andy?
Trois pieds.
À peu près.
Au niveau de fantasy, là, genre.
Il jouait juste Gimli, là. Faut juste.
Ben, c'est ça. Il jouait Bimbly.
Ben, en le fait, nain. Je savais même pas c'était qui à cette époque-là. On n'a pas lu des affaires de vieux monsieur, là, weirdo anglais, là.
Bon. Et Tommy, t'es réellement l'homme le plus unique.
Il est parfait.
Au monde.
Tommy est parfait.
T'es l'homme le plus unique au monde.
Ouais.
OK.
Mais tout le reste du monde qui sont pas Tommy joue des personnages de main. Fait que si je pense à un Vortos, mettons, quelqu'un qui tripe sur le lore des cartes, puis là, il pong des cartes, puis il est comme, c'est quoi toute cette lore-là? Puis là, il va sur Wiki, puis là, il fait, holy shit, il y a comme 40
Volo
ans.
Volo existe.
Oh, ouais, c'est ça.
Xanathar, justement.
Puis genre, il se fait un commander avec, justement, Xanathar, puis là, il voit qu'il y a 1000 aventures qui impliquent Xanathar, puis là, il est comme, holy shit, il y a même un livre de D&D, fait que tu sais, c'est le genre d'affaire que quelqu'un peut commencer vraiment à triper. Puis c'est sûr qu'il y a des gens autour de lui ou d'elle qui jouent à D&D. Maintenant, en 2021...
Assez, le diagramme de Venn est assez rapproché.
J'avoue qu'il doit y avoir beaucoup de joueurs de Magic qui connaissent au moins une personne qui fait D&D, c'est pas eux-mêmes. Ouais. Fait que,
jeu Magic a été inventé pour que le monde passe D&D, de quoi en attendant que les autres joueurs de la game arrivent. Fait que ça a été un des moteurs pour développer et populariser la patente. Puis après ça, c'est devenu plein de douchebags dont Magic.
Qui achète des cartes et qui est calé ici en faisant de la boxe.
Exactement. Ça, c'est pas Pokémon.
C'est Pokémon, mais ça sent bien Pokémon. L'an prochain, Magic the Gathering.
Ben Hunter Pence, il a fait son un bling avec un Black Lotus. Bon, mais la différence, c'est qu'Hunter Pence joue vraiment à Magic, puis il aime le jeu, puis il joue le. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, il y a une chaîne Twitch.
Hunter
Pence, c'est un ancien All-Star de la MLB, là. C'est un joueur de baseball. Là.
OK.
Puis il a pris sa retraite à, comme, je sais pas, 28 ans parce qu'il joue au baseball.
Parce que c'est dur, le baseball.
puis là, il joue à Magic pas mal non-stop. Là. Il stream ça sur Twitch, il organise. Un tournoi de Limited à chaque semaine avec d'autres streamers. C'est quand même cool, là. Ils appellent ça le Sweatsuit Invitational. Là. Si vous trippez sur le Limited, là, ça vaut la peine de regarder.
Si tu écoutes du Magic en ligne, mon Emmanuel, c'est capoté. Hein. Moi, je suis tombé dans les conspies à la place.
Ouais, à chacun, chacun son evasion, écoute.
Ouais, il faut. Fait que, j'aime bien quand tu dis que Forgotten Realms, c'est un petit peu comme le monde le plus standard de base, là, mais en même temps, je trouve qu'il s'adapte bien. Puis moi, en tant que DM, moi, toutes mes quests depuis genre 25 ans, là, j'ai fait sur la Terre. On choisit une place à la Terre parce que le plus long, c'est la map. Puis, tu sais, toutes les maps sont faites, les maps de la Terre. Là, tu peux être à côté d'un désert.
Sur Google Maps.
Puis, ce qui est fun, c'est que les stéréotypes sont là aussi. Là, mettons qu'on décide. La dernière game que j'ai faite, on était à Le Cap, en Afrique du Sud. Puis, tu sais, on est tombé dans les stéréotypes que cette place-là peut laisser aller là, avec de la colonisation anglaise. Puis, du clivage racial injustifiable moralement, puis ces affaires-là. Puis, c'est pas mal tout le temps mon assise. C'est vrai que, par contre, ça peut être comme un petit challenge pour un DM de se trouver une place où faire vivre la patente. Ayez pas peur d'impliquer vos joueurs dans cette décision-là. Moi, c'est ma suggestion. La game peut commencer avant que les personnages soient faits. C'est ça.
On a fait une game récemment sur ma chaîne Roche Papier Dragon. Que c'était un de mes joueurs qui DMait. C'était une game de Changeling dans l'univers de World of Darkness, mais on était à Longueuil. Puis dans la game, fallait aller sur Google Maps pour voir où c'est qu'on s'en allait, puis la map, puis tout. Puis il nous disait les adresses, puis c'était genre on va de là à là à là. Puis lui, le DM, il est né à Longueuil, fait qu'il dit ouais, en arrière de cette maison-là, il y a un petit boisé, puis ça mène à là, puis tout.
Ouais.
C'est un peu.
C'est là que les ados vont se cacher pour fumer du pot.
Puis c'est un peu la force des livres de Vampire, puis de Werewolf, puis tout ça, parce que généralement, le monde, c'est le monde actuel dans lequel on vit. Même Cyberpunk, c'est le monde qu'on vit dans un futur.
Earth, là, ouais. On avait fait une quest de Werewolf à Val d'Or, nous aussi. Ça avait pas passé avec Christy. J'allais au secret. À Val d'Or. Hein. Oh, memories. Ben, écoutez, t'as-tu d'autres choses à rajouter, Mathieu? On a quand même joué. J'ai très hâte de faire le draft aussi, le 30 qui s'en vient.
Ouais.
Ça va être une belle activité. J'aime beaucoup ça, faire des drafts.
Peut-être rapidement finir sur les classes de les cartes de classe. Est-ce que vous en avez parlé déjà?
Oui. Non. On a parlé.
Perso, j'ai trouvé vraiment cool. Sont pas bonnes, sont pas brisées, mais Ça me donne le goût de faire une game où est-ce que tout le monde commence avec une classe random, tu sais, où tu fais un cube puis que tu pognes des classes d'affaires la même. C'est
C'est très bon, c'est vrai, parce que c'est comme aussi un indice. Tu peux, mettons, prendre n'importe quelle classe, là, mettons la druide, puis ça te donne comme une synergie à construire un deck auto. Puis le fait que c'est pas légendaire, ben, tu peux multiplier les pouvoirs rapidement. C'est pas grave d'avoir deux fois la classe de druide en jeu, ou sûrement plusieurs autres classes, que ça c'est cumulatif intelligent de bonne manière. Oui, moi je suis très impressionné par les classes. Vraiment.
Et le flavor est on point aussi. Là, je parlais avec ma soeur de la classe de paladin, tu sais, puis elle a d'un deck de knights. Puis comme la classe de paladin, c'est parfait pour mon deck de knights. Là,
ça fit flavor, puis.
Ça fit flavor, ça
mécanique,
fit mécanique. La classe de rogue. C'est le deck de standard de Rogue est optimisé beaucoup, là, mais il fitrait dedans, tu sais.
Ouais.
Genre, c'est. Puis il fit avec
Xanathar. Avec la rotation, je pense que ça va être la seule façon que ça garde.
C'est vraiment bien pensé. Je pense que le seul défaut, puis ça a l'air nono de dire de même, c'est la permanence. Parce que c'est similaire aux sagas, mais les sagas disparaissent à un certain moment donné. Tandis que la classe, elle reste tout le temps là.
C'est plus similaire à un enchantement.
Mais c'est un enchantement que tu boostes. T'sais.
Oui, mais tu investis dessus. La saga à tick tout seul.
Tu mets-tu des counters dessus? Non, hein?
Oui. C'est pas des counters, c'est qu'elle gagne. C'est qu'elle gagne une nouvelle habilité puis qui se rajoute. Ouais.
C'est parce que tu sais, les sagas, tu peux manipuler les counters puis tout.
Ouais, mais ça, tu peux pas.
C'est non,
pas
c'est
vraiment,
ça, non.
Ça, tu peux pas.
Tu peux pas. À moins, j'imagine, si ta blink repart à zéro. Si ta blink repart à 1.
Oui. Pourquoi tu voudrais faire ça? Là?
Elle fait quelqu'un d'autre le ferait.
Ouais.
Ton adversaire
peut surtout. Il y en a qui trigger des affaires de tu piges deux cartes puis t'en jettes deux. Il y en a
qui certaines cartes que
ça vaut la peine. Là. Déjà en start, là. Ça serait que. Je sais pas. Hein. Je regarde vite puis je sais pas
si la monk class, elle a surtout des effets que. Quand tu la mets en jeu une shot, puis après ça, quand tu la level 2, la level 3 reste.
La manque, c'est que le premier niveau de ton deuxième spell et les autres coûtent un colorless de moins casté. Le deuxième, c'est que. Bon, le troisième, je sais que c'est quand que t'as casté
un spell. Je pense que le
deuxième niveau, c'est
tu vois à quel point c'est hot, c'est que toutes ces cartes-là au premier niveau, ils n'ont pas une affaire automatique que tu pourrais juste blinker puis ça te donne quelque chose tout le temps.
Ben, il y a un Ranger class qui fait une 2-2.
Vraiment blinker.
Mais tu veux pas vraiment la blinker, tu veux qu'elle soit niveau 2.
Ben ouais, ben. Tu comprends ce que je veux dire, c'est que c'est comme.
C'est sont bien vraiment pensé. Bien créés, ouais.
C'est tout le temps souvent au deuxième niveau, comme mettons le mage que lui s'est fait piger deux cartes.
Ouais. Ouais, c'est comme un divination parce que c'est exactement le prix, c'est 3.
C'est exactement le prix, mais t'as donc aussi un espèce de reliquary tower avec, puis c'est flavor-wise, là, j'étais comme y a juste le barbare que je trouve un peu plate parce que ça à propos de rouler des dés.
Puis le barde, mais ça te prend des légendaires. Là, mais...
Ouais, mais le barde, c'est des légendaires.
Le barde est excellent en construit.
Oui,
puis il grûle. Genre, qui l'eût cru que Bard était grûle, mais quand tu y penses, t'es comme ouais, c'est genre la communauté puis des émotions, t'es genre.
Ben c'est aussi. Ah non, je sais pas. Parce que du coup, c'est comme les Rakdos, mais les Rakdos, c'est pas la même
affaire. Non, les Rakdos, c'est.
Exact. Mais Bard aurait été avec eux autres, là, quelque part. Mais c'est vrai que c'est plus.
Ça dépend quel type de Bard, là, mais un Bard, c'est plus support que.
Le premier Bard, c'est Yisan Wandering Bard, puis il était vert. Fait que voilà, c'est ça mon argument.
Il était elf, hein?
Ben, moi, je.
Oui?
Ouais.
Je sais pas. Je sais
que il y avait le premier dans MTG, c'est celui que tu as dit peut-être tant, puis il me semble il y avait comme le Elvish machin qui
peut-être pas
laisser un verre. Du coup,
qu'il y avait un Elvish Bard.
Je vais aller chercher ça, là, Emmanuel est sur le cas, ça va nous amener je pense
à Yisan. Yisan, c'est peut-être pas le premier, mais c'est un human rogue.
Voilà.
Il n'est même pas Bard.
C'est pas un tribe dans Magic.
Ouais, puis Bard aussi, c'est un job. Là. Tu peux être comme un Bard autrement, peut-être.
C'est vrai.
C'est un rogue avec beaucoup de performance.
Ouais, exactement.
C'est le nom de mon prochain single, ça, Tommy. Bard autrement.
Bard autrement, j'adore ça. Bon, ben là-dessus, je pense que ça nous amène à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Mathieu Gassien, de t'être déplacé jusqu'à dans ton salon pour venir jaser avec nous de Forgotten Realm. On peut te suivre sur le podcast Roche Papier Dragon. Hein? C'est sur, le lien dans la description, sur YouTube en particulier. Sinon, sûrement sur Spotify.
Oui, sur Spotify, sur iTunes, sur partout où est-ce que... Si tu nous googles, tu vas nous trouver.
Et voilà.
J'ai une question, Nounoun, pour ton podcast. Ouais. C'est quoi vous faites exactement? Est-ce que vous faites des games ou vous parlez de donjons en général?
On fait des games. On a une game qui dure depuis 4 ans, qui va bientôt... la campagne va bientôt se terminer. On a aussi une game qui vient juste de partir, qui est une série de 6 épisodes, qui est Damsel dans le donjon, qui est mon amie Sandrine, qui fait une game seulement avec des filles.
Ah, c'est cool.
Puis ça, ça commence, puis genre, les gens trippent, là.
Ouais, j'imagine.
On a aussi des shows de discussion. On fait des one-shots les lundis souvent. Fait que les lundis, on a fait des one-shots avec Deegun. On a fait un one-shot de druides.
Non, pas des druides.
Ouais. Puis aussi, si je peux annoncer rapidement, on a de la merch qui s'en vient. Donc, dans les prochaines semaines là, ou début août, on est plein de podcasts de D&D. On s'est mis ensemble. On a fait un site internet qui va s'appeler Metagame. Puis, il va y avoir partout où est-ce qu'il y a les liens, là, je vais envoyer les liens à Tony
comme,
pour qu'il mette
comme
ça.
Comme Metagame?
Comme, exactement comme Metagame, mais aussi comme Metagame, parce qu'on est plein de gens ensemble. C'est génial.
Calembour dingue. Je te donne 2 minutes de pénalité pour toutes les calembours.
Oh, des trucs.
Wow. Et voilà, tout est là.
Il va y avoir des signets, des verres.
On préfère des tokens avec
un masque. Hein?
Voilà, vous irez explorer les liens qui sont en bas. Merci Andy aussi d'être passé. Et merci Emmanuel. Je suis désolé que tu aies gagné vendredi soir passé.
Écoute, ça m'a fait plaisir de te battre, Tommy.
Ouais.
Bon, on va pouvoir se venger dans 2 semaines.
Dans 2 semaines, j'ai très hâte. Là-dessus, ben, merci à Martin Godet qui s'occupe du montage. À Chinook qui est venu gueuler. Merci aussi. Je pense que c'est son gueulage qui a comme fait que mon père était traumatique. Fait que ça a mis tout à off. Merci aussi à Bone pour le beat. Et à l'Abyss pour leur support moral, à Jason, parce que c'est lui le sphinx qui est le phare dans la nuit sombre. Et ben voilà, on a de la merch nous autres aussi, on est disponible sur Spotify, on est Terrain Basique et mon nom est Tommy Godet. Je vous souhaite à tous et à toutes, surtout Emmanuel vendredi soir passé, d'être le moins manascrew possible.
Famille H2O Web Media.